Ça me fait penser à une intervention qu'il y a eu juste avant de finir l'année 2020 sur le texte du sacrifice, enfin, la ligature d'Isaac, du non-sacrifice d'Isaac. Un des intervenants, le père Éric Morin, qui est théologien au Collège des Bernardins, disait que un des enseignements de ce texte, ou sinon le plus grand enseignement de ce texte, c'était de ne pas enfermer Dieu dans l'image que l'on s'en fait. Et que, en fait, c'est ça, quoi, le travail justement, de l'intelligence que tu appelais. Et il me semblait que quand tu évoquais les créationnistes, enfin, quand tu parles des créationnistes, c'est ça, c'est qu'à un moment, ils ont une image de Dieu et de la vérité, et quand quelque chose vient percuter ça, eh bien, soit on est dans le refus, comme tu l'expliquais, soit on trafique le truc pour que ça colle, voilà. Mais en fait, on ne veut pas bouger de sa représentation du divin, du vrai, du juste, de l'homme également. Et c'est ça qui est dramatique quand on est figé en pensée sur ces sujets-là. Tu as largement évoqué effectivement l'importance pour les religions d'être ouvert aux sciences et de se nourrir des apports et de ces intelligences. Je rappelle une des phrases de C. Clarke, Arthur C. Clarke, que tu aimes habituellement citer, hein, qui est qu'une religion qui ne résiste pas à l'épreuve des sciences ne mérite pas d'exister. Je crois que c'est ça.
Oui, une vérité peut-être même, une vérité oui, qui n'accepte pas de... Enfin, je retrouverai la phrase, mais
Ouais,
c'est
je
ça.
crois que c'était une religion que
Une
tu
religion
disais, hein,
peut-être,
qui n'accepte pas enfin, le filtre de.
Je pourrais la retrouver, vous la donner, oui.
Voilà,
Arthur,
Arthur
peut-être
C.
la
Clarke, qui est
retrouver.
un excellent auteur de science-fiction. 2001, l'Odyssée de l'espace, n'est-ce pas? C'est bien lui. Hein.
Tout à fait.
Est-ce qu'il n'y a pas également enfin, tu en as un peu parlé, mais une religiosité scientifique? Est-ce que tu la croises, toi, dans ta pratique? Voilà, c'est pour première question. Et après, je vois que Florence a levé la main, donc je vais.
Alors, il y a tout un sujet que certains abordent, hein, c'est-à-dire que la difficulté, c'est que dans le savoir tel qu'il est construit aujourd'hui, il y a quand même un appel à la confiance. Moi, je veux dire, l'électron, je n'en rencontre pas. Le Big Bang, c'est une théorie. Donc, il y a tout de même un... On ne peut pas strictement en posant le savoir, c'est comme ça. 2 et 2 font 4. OK, ça, parfait. L'électron, c'est déjà plus difficile. La relativité, donc, c'est souvent cet endroit-là qui est évidemment un peu opposé aux sciences. Et c'est sur ces endroits-là qu'il y a et en même temps aussi des choses intéressantes qui se passes. Par ailleurs, alors, quand tu as le terme de religiosité, alors ou de. Parfois même de ritualisme, c'est que peut-être moins dans le monde des sciences, mais dans le monde des techniques, il y a des rituels et de la
Ah
religiosité
oui.
de manière assez extraordinaire. Pourquoi? Parce que, c'est mon quotidien d'entendre parler en tout cas de lanceurs de satellites, quand on a commencé à lancer des Ariane, depuis le sol français, puis c'était la Guyane, en 79, lors des premières années, on ne lançait pas une Ariane sans aller mettre des cierges à l'église du coin. Et donc, quand j'ai entendu ça la première fois, je me dis non, c'est une histoire qu'on me raconte parce que c'est quand même trop. Et non, non, pas du tout, pas du tout. Ça faisait partie
Du rite.
de la liste des choses à faire la veille du lancement d'aller mettre des cierges. Et le jour où on ne le faisait pas, d'ailleurs, ça ne marchait pas le lendemain. C'est pour ça qu'on le faisait systématiquement. Et le jour où on a commencé à lancer des satellites américains, donc la première fois, les ingénieurs ont dit, bon, demain on reçoit les Américains, mais on ne leur parle pas de notre petite rite un peu idiot. Et donc à la réunion juste avant le lancement, où on fait on reporterie tous les postes, et où il faut que tout soit vert, donc on énumère tous ces postes, et puis évidemment on ne parle pas des cierges, mais juste avant de terminer, il y a un des ingénieurs qui dit, bon, il ne peut pas s'empêcher, il ne faut pas oublier les cierges. Donc évidemment, il se fait foudroyer du regard par son chef, et l'Américain dit, ah bon, parce que vous aussi, vous faites ça. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que là, on n'est pas dans la religion, mais comme tu dis, dans la religiosité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, dans notre existence, et nous le savons bien, c'est aussi, enfin, voilà, avant le match de football, on a combien vu de joueurs qui se signent ou quoi. Il y a des moments où on aborde un moment un peu crucial. ou un moment qui nous dépasse dans ce que nous sommes en train de manipuler et qu'on veut le signifier. C'est ce côté qui surpasse l'homme. Alors là, on tombe dans la religiosité. Bon, dans le milieu scientifique, surtout quand on est scientifique français, ça ne se fait pas et ça ne se dit pas. Bon. Et pourtant, on peut toucher aux limites de la physique et aborder la métaphysique. Enfin, c'est un sujet que j'avais abordé avec ces savants qui osent parler de Dieu. Et je me souviens d'une émission télé, le soir même ou le lendemain du jour, on avait réussi à poser une sonde sur la comète Churyumov-Gerasimenko dans une mission de télé où donc il y avait un débat auquel je participais. Un astronome qui est décédé malheureusement depuis était très présent et il y avait une question des auditeurs, des téléspectateurs. Et un téléspectateur, c'était la dernière question, dit mais et Dieu dans tout ça? Nous arrivons aux confins là, du système solaire et Dieu dans tout ça. Et l'astronome a sauté sur sa chaise en disant, mais ce n'est pas question, nous parlons de science. Oui, mais pour ces téléspectateurs, arriver aux confins de la science, là on était vraiment la fine pointe de l'exploration, ils se posaient la question de Dieu. On ne peut pas empêcher d'avoir cette réaction-là, alors qu'il s'exprime de plein de manières, y compris dans des formes de religiosité.
Oui, je faisais allusion plutôt au tabou qu'il peut y avoir dans les sciences, voilà, enfin dans, ou des dogmes qui deviendraient non discutables ou des choses comme ça.
Alors, oui, c'est une question de dogmatisme. C'est pour ça que voilà. Quand je parlais de.
Enfin, religiosité, c'était pas le bon terme. Oui,
d'accord. Mais après, effectivement, le dogmatisme existe aussi bien en science qu'en religion.
Oui.
Quand Gould, Stéphane Jay Gould parlait de non-empiètement des magistères aussi, c'était intéressant d'utiliser le terme de magistère, parce qu'effectivement, il y a un certain magistère scientifique qui n'est c'est pas nécessairement un terme péjoratif. Hein, la communauté des pairs, la communauté scientifique qui est aussi capable d'une certaine autodiscipline et qui essaie de garder, malgré des fois quelques scandales, mais le sérieux des publications, des expériences, etc. Donc, le magistère est le garant, mais le garant positif aussi d'un groupe. Alors après, il ne faut pas que ce magistère devienne que cette garantie soit un excès de pouvoir et qu'il soit au contraire de freiner. Un de mes professeurs en ecclésiologie nous disait toujours, il y a la sociologie d'une. Alors il parlait de la sociologie de l'Église, mais on pourrait l'appliquer à d'autres, au terme d'Église en dehors du christianisme, c'est d'avoir trois pôles. Évidemment, le pôle en nombre le plus important, c'est celui des fidèles, j'avais oublié. Le magistère, qui va avoir le garant de la tradition, d'une qualité de transmission de la tradition, et puis le pôle des théologiens, qui vont être un peu les francs-tireurs, ceux qui sont à la recherche et qui doivent se permettre l'audace. Quitte à se faire un peu taper sur les doigts à l'occasion, mais j'allais dire délicatement taper sur les doigts, pas nécessairement se faire brûler, pour pouvoir faire avancer les choses et éviter un certain dogmatisme. Le dogmatisme étant le fixisme.
C'est ça.
Et ça, on peut dire que c'est un peu la même chose dans le domaine des sciences.
C'est ça, on trouve sur le triptyque.
Il y a aussi les sciences sont à la fois enseignées dans des universités, c'est le côté plutôt magistère, mais il y a aussi les chercheurs qui sans cesse tâchent de faire avancer les choses et pour ça doivent être audacieux, quitte à se dire une théorie, on l'a testée, elle ne marche pas, on va en chercher une autre. C'est quand même le propre de la recherche.
Merci. Florence.
Merci beaucoup. Merci monsieur. J'aurais deux petites questions. Vous avez parlé d'intelligence à la fin de votre propos et j'aurais souhaité que vous nous précisiez ce que vous entendez par intelligence, parce que pour moi, c'est une notion qui est extrêmement personnelle et parce que pour moi, l'intelligence, ça peut être de l'amour, ça peut être du discernement, ça peut être un QI, ça peut être énormément de choses. Donc, je voudrais que vous nous donniez... que nous précisiez ce que vous entendez par l'intelligence. Et puis, vous avez cité un nom qui m'est cher, celui de Teilhard de Chardin. Mmh. Et j'aurais souhaité savoir si selon vous, aujourd'hui, comment vit la pensée du père Teilhard de Chardin, j'allais dire 50 ans après sa mort. Est-ce que, j'ai découvert avec joie que, par exemple, des gens comme Patineau, qui dirige Arte, l'avait cité dans un bouquin. Il apparaît, peut-être aussi que je suis capée pour le voir, mais il apparaît de façon régulière dans mes lectures et je voulais savoir si effectivement sa pensée irrigue toujours nos modes de pensée.
Intelligence, oui, j'utilise ce terme-là en l'appliquant en particulier au phénomène religieux et en disant pour moi, le maître de l'intelligence dans les religions, c'est entre autres le travail de la théologie, pas du tout seulement des théologiens, ou alors dans la perspective qui est celle de la tradition chrétienne, qui est de dire que tout chrétien doit être théologien, c'est-à-dire justement d'introduire pas seulement son affect, pas seulement sa gestuelle, voilà, on célèbre, on prie, on chante avec son corps, avec sa voix, c'est très bien, mais que toute la personne humaine, y compris sa capacité à s'interroger, sa capacité critique, puisse s'exprimer dans la manière d'adhérer à une tradition. La tradition chrétienne, mais encore, ce n'est pas du tout pour l'exclure des autres, hein, a eu tout de suite ce souci-là à travers ce qu'on appelle les pères de l'Église, hein, durant les premiers siècles de l'Église, où des théologiens qui étaient évêques, qui étaient moines, ils avaient des responsabilités au sein des communautés ou simplement ils étaient engagés dans cette vie chrétienne, ont essayé de comprendre, de décortiquer leur foi et de l'exprimer avec des de la oui de, voilà de décortiquer, de dévoiler, de la développer pour leur temps et dans leur temps, d'où la rencontre du christianisme, la manière dont le christianisme naissant a pu s'alimenter, non seulement dans la tradition biblique et la tradition juive et hébraïque, mais aussi s'est tourné vers la tradition de la philosophie grecque et puis ensuite vers d'autres philosophies en particulier pour se dire, mais qu'est-ce que nous disons quand nous disons « je crois en un Dieu créateur et en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint » vraiment, qu'est-ce que signifie le credo chrétien ? Donc c'est là mettre de l'intelligence, c'est-à-dire essayer de dire quelque chose de Dieu.
Mais oui. Alors, vous nous avez invité tout à l'heure éventuellement à saisir la balle au bond, donc j'en profite. Hein. Aujourd'hui, si effectivement le fait de faire usage de mon intelligence pleine, à mesure de mes capacités bien évidemment, avec mon sens affectif, mon esprit critique, ce que j'ai appris, etc., mon discernement, je me dis que tous les hommes et les femmes d'église, alors moi mon champ référentiel c'est l'église catholique, sans doute le font également, et pourquoi ce blocage, cette séparation toujours entre les hommes qui dirigent notre église, enfin l'église catholique, et les femmes qui restent bons et qui peuvent pas être ordonnées. Enfin, je la pose de façon candide la question, mais c'est volontaire.
En même temps, vous voyez, la preuve, c'est qu'on peut avoir des théologiens et des grands théologiens depuis 2000 ans et continuer aujourd'hui à avoir un mal fou dans l'Église catholique, à sortir d'un certain nombre de ornières et de visières dans des domaines sur lesquels nous devrions avancer. Puisque vous évoquez la question homme-femme, si vous me permettez, vous prêchez un converti de la cause féminine et je m'agace, c'est pas du tout pour ces raisons-là que j'ai quitté les Dominicains, c'est pour tout à fait d'autres raisons. Mais quand j'entends une fantastique avancée et que c'est simplement de reconnaître la place des femmes telle qu'elle est aujourd'hui dans les églises, il y a quelques jours, ma compagne m'a dit, mais tu vois, la place, c'est parce que cette dame qui vient de faire la première lecture, elle a le droit de le lire et que le pape reconnaît ça. Je dis non, tu sais bien que ma position, ce n'est pas ça. C'est que moi, je serais non pas satisfait, mais je serais heureux le jour où on ne va pas bricoler en disant « bon, alors demain, on va peut-être permettre à des femmes de faire… » Non, c'est qu'il faut bousculer tout ça et il faut ordonner des femmes prêtres et basta, et on avance, ce que d'autres églises ont fait. Ça ne veut pas dire que tout sera réglé. Je ne dis pas que tout sera réglé le jour où on aura des femmes ordonnées. Il y aura d'autres choses qui vont apparaître, mais… L'intelligence par rapport à ce que nous... Enfin, c'est ça. Alors, ça demande un geste dans l'Église catholique qui serait une véritable révolution. Parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de gens qui sont contre ça. Mais vous savez bien que l'intelligence n'est pas suffisante. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire par là. Elle n'est pas suffisante. Et comme vous dites, il y a plein de... l'intelligence est plein de choses. Ou en tout cas, on peut la décliner de plein de manières. En tout cas, le travail de l'intellect, le travail de la de la recherche, le travail. Je vais donner aussi l'exemple, on pourrait donner, parce que je vais peut-être être explicite, mais dans le travail, le rapport au texte sacré, où il y a eu un travail d'intelligence depuis des siècles, qui a mis du temps. Et aujourd'hui, nous en sommes à peine encore au résultat dans le peuple des fidèles, pour reprendre ma trilogie de tout à l'heure, pour que, quand on lit un texte biblique, on se dise bien, mais attention, ce n'est pas un récit d'histoire. Bon. Mais vous savez qu'encore au début du XXe siècle, encore au-delà, on a mis des gens à l'écart, dont votre cher et mon cher Teilhard de Chardin, on les a mis à l'écart parce qu'il a osé mettre en cause l'historicité du texte de la Genèse, la création d'Adam et Ève. C'était il y a un siècle. Bon. Et pourtant, il y a des siècles auparavant que des pères de l'Église disaient « Attention, la Bible, ce n'est pas un livre unique, c'est une bibliothèque, il y a des genres littéraires différents, il ne faut pas lire de la même manière, le Cantique des Cantiques qui est un poème avec le Livre des Juges qui est… » Enfin bref, etc., etc. Mais l'intelligence met du temps, enfin, cette intelligence-là, vous voyez, cet esprit, cette capacité à décortiquer les choses, à chercher… met du temps à infuser parce que, par ailleurs, il y a évidemment d'autres dimensions dans une tradition religieuse où, pour changer, il faut du temps. Et puis, voilà, comme c'est aussi une question d'affect, c'est aussi une question, les corps sont lourds, les habitudes sont lourdes. Et bien sûr, ça peut être plus simple si nous étions des anges, mais je ne sais pas comment ça se passe chez les anges. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Bon, voilà, enfin, en tout cas, je pensais, si vous voulez, comment dirais-je ? Il y a ça dans la tradition chrétienne, cet appel auquel on n'a pas assez répondu, auquel on ne répond jamais assez, un appel à l'intelligence. Que la foi ne soit pas seulement, du genre, je crois parce que c'est absurde, enfin, ça c'est presque la caricature, mais le côté fidéiste, je n'ai pas besoin d'être intelligent pour croire, il faut prendre ça comme ça, ça me tombe du ciel, tu ne réfléchis pas, tu dois être une bonne brebis obéissante qui reçoit le discours de l'autorité suprême, transmise en plus par un clergé, enfin, bon, il faut, non, c'est pas ça, c'est là qu'il faut, c'est dans ce sens-là que je parlais d'intelligence. C'est déjà trop long, mais alors Teilhard, vous prêchez un converti, c'est un vieux camarade de route. Évidemment, quand vous vous intéressez aux questions science et foi, c'est un personnage que vous ne pouvez pas éviter, surtout quand, comme moi, vous êtes un fils de jésuite. Enfin, j'ai été formé chez les jésuites, j'ai même eu la chance, mais je ne le savais pas à l'époque, de servir la messe pendant 2 ans à l'un des plus proches amis de Teilhard, qui est Pierre Leroy. Bon, après, ça vous marque quand même. Je ne suis pas un Teilhardien définitif et dogmatique. Un Teilhardien ne peut pas être dogmatique, je crois. Mais c'est une pensée que je trouve extrêmement intéressante, extrêmement stimulante. Aujourd'hui encore, et encore plus aujourd'hui, on peut prendre une certaine distance par rapport à la période qui a immédiatement suivi la mort de Teilhard. Effectivement, il est mort en 1955, donc ça commence à faire un bail. Mais la période qui a suivi, il a tellement influencé une génération qui avait besoin de cette ouverture, justement, une forme d'intelligence, et puis en même temps, le côté mystique de Teilhard, le côté d'homme dans la société, qu'il a, comment dirais-je, il a profité de cet engouement après sa mort, enfin, sa pensée a profité, et en même temps aussi pâti de cet engouement-là. Et aujourd'hui, ben, ça s'est un peu calmé, si je puis dire, et peut-être que on a plus facilement une approche plus objective, plus ouverte, plus juste peut-être, enfin, je ne veux pas juger, mais un peu renouvelée de ce que Teilhard peut apporter. Et pour moi, alors, c'est cette espèce de… Je l'ai développé il y a quelques années, parce que ce côté d'esprit d'aventure de Teilhard, pour moi, Teilhard est un aventurier, au sens de développer un certain non-conformisme, une certaine prise de risque, enfin, et tout ça est présent à la fois dans la vie de Teilhard et dans la pensée de Teilhard. Dès lors qu'on se balade un peu dans tout ça et qu'on mélange, comme moi je ne sais guère faire plus que de mélanger à la fois la vie et la pensée de Teilhard, c'est ce côté d'aventure. Et je trouve que c'est une image, comment dirais-je, une figure chrétienne que je trouve assez intéressante, assez pertinente pour notre temps. Il ne faut quand même pas oublier que lui aussi a vécu dans une période extrêmement troublée et que c'est un chrétien qui témoigne à la fois de sa foi, de sa vie, de ses peurs, de ses espoirs, et qui propose une pensée sans jamais prétendre que c'est la vérité. Ce n'est pas du tout un dogmatique, justement. Il dit voilà, enfin, il ne le dit peut-être pas comme ça, mais moi je dirais ça en le lisant un chrétien dans son siècle, avec sa culture, avec son intelligence, avec sa passion. Parce que quand je dis bien un chrétien, je dis parfois c'est plus qu'un chrétien, c'est un chrétien. Enfin, Teilhard est aussi amoureux du Christ que François d'Assise ne l'était. Et donc il y a un aspect christique extrêmement fort chez lui. Alors on l'accepte, on l'accepte pas. Après, je veux dire, c'est voilà, il nous est donné en pâture, si je puis dire. Mais il y a des côtés extrêmement intéressants. D'autant plus que, alors justement, le côté panthéiste de Teilhard, qu'il ne le revendique pas, mais il dit clairement qu'il est panthéiste, enfin qu'il a une dimension panthéiste, est aussi quelque chose qui est intéressant pour l'époque qui est la nôtre, où nous ne pouvons pas ignorer le monde qui est le nôtre et les dimensions du monde qui sont les nôtres.
Je suis sûr que tu es capable de nous résumer en une phrase la pensée de Teilhard de Chardin.
Pour ceux qui ne connaissent pas. En avant. Non, mais
ouais,
Teilhard en trois mots.
Ouais.
C'est une pensée qui est marquée par l'évolutionnisme, donc il n'est pas du tout créationniste. Hein. Mm. Ce n'est pas nécessairement ça le Darwin, mais ça, je m'en moque. Pour ce qui est... Donc, c'est l'idée que Teilhard est à la recherche de quelque chose de solide. Et il se rend compte dans sa démarche qu'il n'y a pas d'autre solide que le mouvement lui-même. Et que le mouvement de création, ce qu'il a comme chrétien, il confesse comme création, mais ce qu'il va appeler le phénomène humain, qui est comment, depuis de la matière, la matière la plus matérielle possible, et bien de cette matière naît la vie, et de cette vie naît la conscience, et dans cette conscience naît l'humain, et que c'est ça qui d'ailleurs dit, voilà, il n'y a rien d'autre que ça. Mais c'est dans cela, et c'est que je trouve que pour les chrétiens qui ont un petit problème de rapport avec la matière et le corps, il dit, mais ce n'est pas ailleurs que dans la matière et à travers la matière que l'esprit peut naître et peut rejoindre Dieu.
Donc, la matière, la création, quoi.
La matière, oui, après, ouais. Oui, mais c'est aussi, comme il dit, c'est la boue. Parce qu'il dit, voilà, moi, je suis entouré de chrétiens qui ont peur de la matière. Comme étant mais non, il faut transformer cette boue, dit-il à un moment donné, il faut purifier cette boue, en faire de l'or, et c'est ça le travail du chrétien. Donc, il y a une très grande confiance. C'est-à-dire, quelqu'un d'une immense confiance. Enfin, comme disait un de ses commentateurs, et pas des moindres, c'est un de ses confrères jésuites, au fond, Teilhard est un pessimiste, mais c'est sa foi qui le rend optimiste. Donc il a une conscience de la lourdeur humaine, parce qu'il l'a vécu, il a été dans les tranchées, il a vu la violence, il est exilé, enfin, il a, bon, cette première moitié du XXe siècle, elle n'était pas très drôle, et ça, il l'a vécu à fond, si je puis dire. Et en même temps, là-dessus, il exprime sa foi, et une vision, donc, d'où la... On dit en avant, c'est ça, c'est plus ultra toujours, hein, c'est-à-dire toujours en haut et en avant. C'est, bon, après, il y a plein de critiques à faire, et c'est plus dans l'état d'esprit auquel on peut éventuellement se nourrir.
Moi, j'aurais une question, s'il vous plaît, concernant la génétique. Je voulais savoir si c'est un sujet qui avait relancé les débats entre science et religion, si ça avait accentué la séparation, et est-ce que ça pourrait être la prochaine révolution scientifique, selon vous?
Alors, je ne pense pas que c'est autant révolutionné que ce qui a juste précédé, qui était Darwin. Bon, vous savez que la génétique a été fondée par un prêtre aussi. Hein. Mendel était chanoine augustin, et contemporain de Darwin. Darwin avait reçu les articles de Mendel, mais ne les avait jamais ouverts. Et bon, ça, c'est l'histoire des sciences. Donc là encore, hein, présence de scientifiques croyants, là en l'occurrence méconnus, mais reconnus ensuite. Après. Je pense que la question de la génétique a davantage été une question, un défi aux questions d'éthique et de philosophie que de théologie. La question pourrait se poser dans l'avenir, puisque vous parlez de l'avenir, et plus largement peut-être, ce n'est pas que de la génétique, mais ça peut la concerner, dans ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est l'usage de technologies, dont celle du génie génétique, pour nous offrir à nous humains un transhumanisme, une transhumanité qui serait immortelle ou quasi immortelle, voilà, une vie parfaite, quasiment la vie rêvée des anges ou la vie rêvée des dieux. Donc là, c'est là qu'il y a un ensemble de débats aujourd'hui qui sont entamés quand même, parce que c'est vrai que le milieu religieux, je ne dis pas s'inquiète, mais il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, c'est plutôt en association ou en écho avec d'autres milieux philosophiques qui s'interrogent sur ces projets ou ces débuts de réalisation, parce que la limite du transhumanisme est difficile à placer. À partir de quand améliorons-nous l'homme? Entre la restauration, la rénovation et l'amélioration, la différence est parfois extrêmement faible. Et donc se posent des questions de morale, d'éthique, auxquelles effectivement les théologiens s'intéressent déjà. Alors là aussi, il faut se souvenir que dans notre contexte culturel et intellectuel français, il y a, bon, au nom de la laïcité, les choses sont parfois un peu plus séparées que ne sont dans d'autres pays. Quand vous discutez avec des Américains, beaucoup de réflexions morales sont menées par des théologiens, si ce n'est toutes. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui a dit « moi, je fais de l'éthique ». Non, il va dire « je suis théologien et je m'intéresse aux questions éthiques ». Donc, là, il y a pas des frontières, mais des organisations de disciplines qui sont un peu différentes de celles que nous connaissons chez nous. Mais c'est peut-être plus, vous avez raison, plus peut-être dans la suite que les questions pourraient se poser.
Merci.
Merci à vous.
Bonjour, une dernière question, monsieur, un petit peu indépendant des sujets de discussion, mais vous pourriez nous présenter en quelques mots les enjeux de vos fonctions actuelles de conseiller éthique du CNES, parce que c'est extrêmement intéressant.
Alors, je ne vois pas à qui je parle, mais je parle à vous tous. Hein, parce que
ici, mais juste un
vidéo. En plus, vous êtes dans le noir, donc voilà, mais comme ça, je vous ai repéré. Alors, bon, là, on est dans un autre sujet. Il est clair que je n'ai pas pris les fonctions de chargé d'éthique au CNES à cause de mon doctorat en théologie. Même si c'est du ciel qu'il s'agit, ce n'est pas tout à fait le même. Mais là, d'ailleurs, oui, entre parenthèses, quand je rencontre des Américains, pour eux, c'est normal que quand on s'intéresse à l'éthique et qu'on essaie d'installer au sein d'un organisme de recherche une réflexion éthique, comme c'est le cas au CNES, je serais aux États-Unis, on se tournerait vers un théologien. Donc, pour eux, c'est logique, alors qu'en France, il a fallu quand même qu'à plusieurs reprises, je rappelle que j'étais capable de… Je n'étais pas schizophrène, mais que pour autant, je distinguais bien mes convictions religieuses et mon engagement même intellectuel, pour reprendre la question de l'intelligence, dans le domaine de la théologie, de la fonction que je commençais à prendre en charge au CNES et que j'ai maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc cette fonction, en fait, si je puis dire, j'ai créé cette fonction, enfin, j'ai participé à la création de cette fonction il y a 20 ans à l'Agence spatiale, au moment où le gouvernement avait demandé aux organismes de recherche et de développement technique comme le CNES de s'intéresser aux enjeux éthiques de leurs activités. Donc des structures comme le CNRS ou l'INSERM ou même l'INRA déjà à l'époque avaient des structures ou en tout cas, même si on a des structures, en tout cas un intérêt pour les questions éthiques, on comprend pourquoi, l'INSERM ou le CNRS, parce que là il y avait très souvent de l'humain ou l'INRA parce qu'il y avait du biologique proche de l'humain. C'était évidemment moins le cas pour un domaine comme le nôtre, enfin qui n'était pas encore le mien à l'époque, qui est le domaine spatial, qui est un peu plus loin de nos réalités, en tout cas dans la perception que nous en avons, loin de nos réalités immédiates. Et donc, nous nous sommes lancés dans cette aventure-là, avec justement à l'époque, et je continue à tenir à cette distinction, parce qu'aujourd'hui, l'éthique est partout, mais aussi dans la manière dont nous nous comportons les uns les autres, dans nos structures, dans nos... Bon, alors, les lois Sapin 2, les chartes de déontologie, enfin là, tout ça c'est extrêmement important, ça relève de la manière dont nous gérons donc nos attitudes professionnelles. Ce qui a été il y a 20 ans mis en tout cas lancé comme initiative dans cette mission qui est la mienne, c'est vraiment une réflexion sur les activités spatiales en tant que telles. Et pour le dire en deux mots, c'est s'interroger sur le pourquoi autant que le comment de ces activités. au fond, pourquoi avoir des activités spatiales, pourquoi lancer des fusées, pourquoi lancer des satellites, pourquoi aller se poser sur Mars comme dans à peu près un mois, nous allons nous poser avec nos amis américains en espérant que tout se passe bien avec les instruments qu'on a mis à bord de leur sonde. Le pourquoi de l'exploration, le pourquoi allons-nous envoyer pour une deuxième mission Thomas Pesquet dans quelques mois autour de la Terre pour de nouveau 6 mois de mission. Voilà, donc c'est tout dossier dans ma mission aujourd'hui, toute activité spatiale qui relève de la responsabilité du CNES, et le CNES a en fait en responsabilité toute activité spatiale sous sa responsabilité, y compris des activités militaires, et bien toutes ces activités méritent d'être interrogés quant à leur raison d'être, quant à la manière dont on les mène, les conséquences qu'elles peuvent avoir, la manière dont on les gère, voilà, la question maintenant déjà ancienne, mais qui n'est pas si simple que ça à régler, des débris autour de la Terre, et puis aussi de mettre aujourd'hui de nouveaux acteurs. Bon, tout le monde connaît le nom d'Elon Musk et ses grandes capacités à la fois techniques mais aussi médiatiques. Bah, l'émergence de ces nouveaux acteurs vient bousculer plus que notablement le domaine spatial, et avec ces acteurs traditionnels dont la France et l'Agence spatiale européenne. Donc à l'occasion, ça peut être aussi des questions qui peuvent rejoindre mon bureau ce que j'essaie de traiter au quotidien. C'est un peu flou, je sais, mais c'est ce que j'ai à...
Merci.
Voilà, c'est ce que j'essaie de... Le défi que j'essaie de relever jour après jour, parce que ça s'inscrit dans le temps.
Tu as aussi, je crois, Jacques, beaucoup de questions du public qui t'arrivent à traiter.
Oui, alors, ce que nous avons découvert quand on a commencé à lancer ça, donc il y a... c'était en 2001 officiellement et encore après, c'est que en réalité nos publics, alors soit immédiats dans ce que un peu un public un peu spécialisé ou en tout cas intéressé, soit un public plus large dès lors qu'on passe par un certain nombre de médias, ne sont pas du tout, c'est-à-dire insensibles à des questions, une manière non strictement technique ou scientifique à aborder ces questions-là. L'espace, mais vous le savez, suscite des questions qui sont ne serait-ce que celle, pourquoi avoir un programme spatial? Pourquoi, par moment, c'est pourquoi dépenser de l'argent pour un truc qui sert à rien? Enfin, d'aller envoyer une sonde sur Mars, ça coûte des millions d'euros et bon, ça va pas changer on va pas trouver une solution pour notre pandémie en allant se balader sur Mars. Bon, parfois, la question peut être posée un peu plus violemment que ça. Mais aussi, tous ces satellites autour de nous qui nous écoutent, qui nous regardent, qui transmettent nos communications, alors sont de magnifiques outils à des choses qui relèvent de la surveillance, de l'espionnage, de tas de choses. Donc par moments aussi, c'est des questions qui méritent d'être abordées. Alors je sais bien que c'est une critique qu'on peut me faire. Par moments, je pourrais servir ou je peux servir, mais c'est pas nécessairement ce que je veux. Circuler bonnes gens, il n'y a rien à voir, ou dormez bonnes gens, on s'occupe de vous. Bon, je dis parfois, pour moi, une des définitions de l'éthique, c'est tâcher de questionner ce qui semble évident. Y compris dans le milieu spatial, c'est assez intéressant. Je ne dis pas que je réussis toujours, loin de là, mais il y a beaucoup de... Les dossiers ne manquent pas, en tout cas. Et si vous suivez en ce moment, donc, je veux parler de l'activité du New Space, c'est une chose où là, il y a des enjeux assez intéressants à étudier et à aborder. Il y a aussi, et je le citais vraiment en passant rapidement, mais peut-être que certains d'entre vous sont intéressés par ces sujets-là, toute la manière dont le militaire aujourd'hui prend une place au niveau de politique plus prééminente qu'elle était auparavant. En fait, il a toujours été très présent, mais le fait que l'armée de l'air est désormais l'armée de l'air et de l'espace signifie quelque chose. Et donc, c'est aussi des sujets qui méritent d'être, je dirais, aussi accompagné par une réflexion qui n'est pas strictement technique ou politique ou économique, mais on va dire plus éthique ou plus philosophique, même si c'est un aspect qu'on accompagne. Ce n'est pas moi qui vais régler les questions, mais je pense que ça a sa place. En tout cas, c'est ce que me disent mes collègues qui continuent à me faire confiance et qui ne m'ont toujours pas éjecté de mon bureau. Donc, j'essaie d'assurer cette mission.